Je vais vous présenter maintenant Lise Rochex. Donc, Lise Rochex est née le 9 avril 1958 à Belfort. Elle est professeure agrégée des universités en sciences économiques. Elle est attachée à l'université d'Aix-Marseille 2. Elle est membre du GRECAM, groupe de recherche et d'études quantitatives d'Aix-Marseille, et de l'IDEP, Institut d'économie publique. Concernant sa carrière, donc elle a été chercheure au CNRS de 1986 à 1993. De 90 à 93, elle a été chargée de mission à la direction de la prévision sur la régulation du système de santé au ministère des Finances. De 93 à 94, elle a été maître de conférence à Dauphine. En 94, donc, elle a été agrégée supérieure en sciences économiques. De 94 à 99, elle a été professeure à l'université de Brest. Et depuis 99, donc, professeure à l'université de Marseille. Elle est membre des conseils d'administration de l'INSERM et du CES, donc Collège des économistes de la santé. Elle est également membre de la mission de concertation pour la rénovation des soins de ville, mise en place par le cabinet de Madame Guigou, en février et juillet 2001. Et elle est experte temporaire de l'Organisation mondiale de la santé au bureau régional de Copenhague, un groupe de travail réforme des systèmes de santé européens. Concernant ses publications, donc, elle a publié de nombreux articles en économie de la santé dans des revues spécialisées nationales et internationales. Donc, Madame Rochex, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons des questions-réponses avec le public. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de votre introduction et surtout de votre invitation à participer à ce cycle prestigieux de conférences sur le thème de l'égalité et de l'inégalité. C'est aussi un grand plaisir, en fait, de partager ce soir des réflexions sur un domaine qui m'est cher, à savoir le domaine de la santé, puisque nous allons parler aujourd'hui, effectivement, d'équité et de santé. Et je crois qu'il importe de rappeler, dans un premier temps, l'appel vibrant qui avait été lancé par l'OMS en 1978 à Alma-Ata et qui s'intitulait « La santé pour tous ». Je crois que ceci définissait un programme à l'époque qui était tout à fait aventureux et qui reste d'une grande actualité, puisque le rapport le plus récent sur la santé dans le monde en 2000 a confirmé l'importance de ce thème de l'équité, puisqu'il met effectivement la notion de justice ou encore de fairness au centre, en fait, des préoccupations et en fait l'un des défis importants à relever dans les années à venir. Donc, cette préoccupation, en fait, de justice ou encore d'équité, comme nous allons la définir dans un deuxième temps, elle trouve un certain nombre de justifications qui sont en fait de deux ordres. Le premier, je dirais, est un peu conjoncturel. Pour avoir participé effectivement à une réflexion sur la régulation des systèmes de santé, j'ai eu l'occasion de me rendre compte de l'importance de la contrainte économique qui pèse sur ce secteur et donc la nécessité d'une réflexion sur les inégalités que cette contrainte peut effectivement générer. Et en particulier donc des inégalités qu'elle peut générer. Je pense que par ailleurs les propositions d'introduction de marché dans le domaine de la santé qui restent à l'ordre du jour sont en fait à prendre en considération, et en particulier ces propositions qui visent à assouplir la contrainte économique qui pèse sur ce marché doivent être prises avec beaucoup de... Il faut effectivement beaucoup réfléchir aux implications en termes d'inégalité de cette... On va y arriver. Alors, sur le plan scientifique, ce qui me paraît très important dans le renouvellement, en fait, de l'intérêt pour l'équité, eh bien, il est d'abord lié à toute la réflexion des philosophes sur le thème de la justice sociale, qui ont permis en fait de préciser le contrat social spécifique à chaque pays. Et je pense en particulier aux travaux de John Rawls en 1971 sur le thème de la justice sociale, et puis des travaux aussi des économistes, notamment d'un prix Nobel d'économie de la santé, Amir Tassen, et qui a effectivement analysé la relation qui existe entre inégalité et développement. Et je pense qu'il a contribué beaucoup à faire en sorte que la réflexion sur les inégalités, en particulier dans le domaine de la santé, s'articule autour, en fait, de l'idée du capital humain que la santé, l'état de santé constitue au même titre que l'éducation et l'importance, finalement, que l'on attache aujourd'hui à la réduction des inégalités. Elle est double puisque l'on va effectivement percevoir cette réduction des inégalités comme un facteur de cohésion sociale, mais aussi comme un moyen de garantir un développement durable, je dirais harmonieux en termes de capital humain. Alors, le paradoxe qui apparaît dès lors que l'on regarde les statistiques, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est celui d'une relative persistance des inégalités, et nous allons tenter, dans la mesure du possible, de répondre ou d'offrir des voies de résolution à ce paradoxe, puisque malgré la présence d'un État-providence fort développé dans certains pays, on va constater que les inégalités, pour certaines, ne se réduisent pas. Donc cette voie de résolution, elle passera en deux temps. La première sera de simplement souligner que toutes les inégalités ne sauraient être considérées comme inéquitables. Et il nous faudra effectivement définir ce que c'est qu'une inégalité inéquitable. Et que par ailleurs, la réduction de ces inégalités doit passer aujourd'hui par une politique qui va déborder largement le système de soins de santé. Donc, à cette voie de résolution en deux temps, une remarche en trois temps, puisque nous allons dans un premier temps tenter de définir effectivement la santé, puis de mesurer les inégalités. Dans un deuxième temps, nous essaierons de définir cette fois la notion d'inégalité inacceptable ou encore inéquitable, comme je l'évoquais à l'instant, pour, dans un dernier temps, et c'est peut-être le plus important, définir une politique efficace ou effective de réduction des inégalités. Dans ce premier temps, je souhaiterais effectivement souligner l'importance de la distinction entre état de santé et accès aux soins de santé. Nous aurons l'occasion de préciser effectivement que les inégalités ne sont pas du même ordre et dans ce qui est les états de santé, nous allons dans un premier temps nous appuyer sur les indicateurs traditionnels de mortalité et de morbidité pour voir dans un deuxième temps les apports d'approches plus positives de l'état de santé. Il faut effectivement définir la santé. Dans un premier temps, ceci l'a été de manière négative, comme le silence des organes, selon la formule de Lorich, ou l'absence de maladie. Dans un deuxième temps, elle a été développée comme un état complet de bien-être physique, mental et social, tel que l'OMS aujourd'hui nous la présente, de manière effectivement beaucoup plus complète et positive. D'où la nécessité de ces indicateurs qui vont compléter la vision partielle et partielle que nous pourrions avoir sur la seule base des premiers types d'indicateurs. Donc je vais présenter une batterie d'indicateurs qui aura pour objectif de vous montrer la façon dont, dans certains domaines, effectivement, nous constatons une amélioration de la situation, mais dans d'autres, il reste encore des éléments qui caractérisent des inégalités. Alors sur ce premier document, nous voyons en fait, dans le cadre de ces indicateurs traditionnels, les taux de mortalité infantile, ceci donc pour 1000 naissances vivantes, et nous avons en fait très clairement, et nous allons la retrouver à plusieurs reprises, nous avons cette distinction très forte entre, à gauche du graphique, la situation de l'Afrique subsaharienne, et puis à l'autre extrême de ce graphique, l'Union européenne, dans laquelle bien sûr le taux de mortalité infantile est beaucoup moins important. On passe de 114 à 13 pour la période de 80, le début de la période, et ceci s'améliore dans les deux pays, effectivement, mais on constate toujours un décalage important entre l'ensemble de ces pays. Pour les indicateurs de mortalité toujours, cette fois, par catégorie de revenus, nous commençons à nous rapprocher de la question des inégalités socio-économiques. Et bien sûr, si l'on compare la situation des pays, de l'ensemble des pays qui sont dits à haut revenu, d'après les sources de la Banque mondiale de 2001, on voit effectivement que sur le premier indicateur que vous avez, à savoir la mortalité infantile, eh bien cette mortalité est de 6, comparée à l'ensemble du monde qui est de 54. Et par ailleurs, toujours pour cette catégorie de haut revenu, donc nous avons 78 pour l'espérance de vie à la naissance, comparée à 66 pour l'ensemble du monde, voire effectivement dans le pire des cas, 64 pour en fait les revenus les plus bas. Alors, ceci vous traduit en fait la relation qui existe et qui est bien connue, la corrélation, je dirais, qui existe entre l'espérance de vie, j'ai pris les hommes pour cette fois-ci, mais on trouve à peu près le même phénomène pour les femmes, donc la relation entre espérance de vie des hommes à la naissance et les dépenses de santé par tête. Et je pense qu'à ce stade, il est important de rappeler que ce que nous avons sous les yeux est une corrélation, c'est-à-dire qu'il semblerait effectivement que les pays qui dépensent beaucoup pour leur système de santé sont aussi les pays qui ont une espérance de vie pour les membres de la société plus importante. Nous aurons l'occasion de voir que cette corrélation, c'est-à-dire cette évolution, semble-t-il, dans le même sens, ne veut pas dire nécessairement causalité. C'est effectivement, sur le plan statistique, un élément important que d'arriver à démontrer cette relation de causalité qui dépasse, bien sûr, la corrélation. Alors, les indicateurs traditionnels, toujours, dans l'espérance de vie à la naissance, nous donnent ici un découpage géographique un petit peu plus fin que celui de la Banque mondiale et qui reprennent, en fait, un certain nombre d'éléments sur, bien évidemment, l'avantage de l'Union européenne par rapport, toujours, à l'autre extrême qui est ici représenté par l'Afrique subsaharienne. On trouve par ailleurs des inégalités fortes entre hommes et femmes. Je pense que vous les connaissez. L'espérance de vie à la naissance pour les femmes est en France de 82,3 années, comparée en fait à des situations beaucoup moins avantageuses pour certains pays comme la Turquie, à l'autre extrême du graphique, avec 70,8 années de vie, et le Japon, qui est donc le premier pays pour l'espérance de vie des femmes, avec 83,8. L'espérance de vie des hommes, donc en France, est nettement moins bien placée. Nous ne sommes plus au troisième rang. Et donc cette espérance est de 74,6 comparée en fait aux extrêmes que sont d'une part toujours la Turquie à 66,2% et toujours le Japon à 77,2%. Pour ce qui est de la morbidité, cette fois nous avons parlé de mortalité et d'espérance de vie. Pour ce qui est de la morbidité, j'ai retenu parmi l'ensemble des éléments qui peuvent effectivement documenter cette question très vaste et qui est plutôt celle que documentent les épidémiologues, les médecins de santé publique, tous ceux qui travaillent sur ce domaine. J'ai choisi deux affections. La première, c'est la tuberculose, dont on voit une relative recrudescence et qui, pour 97, nous donne en fait en incidence pour 100 000 personnes une relation qui, là encore, traduit bien les différences très très marquées entre pays en voie de développement, en particulier toujours l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne, par rapport aux pays plus développés, notamment ceux de l'Union européenne et de l'OCDE. Deuxième condition, ou en tout cas indicateur de morbidité sur un sujet très important, qui est celui de l'HIV, ici indiqué en pourcentage des adultes, et où l'on retrouve de manière plus marquée encore cette différence entre, bien sûr, pays en voie de développement, pays développés, et tout particulièrement, bien sûr, l'Afrique. Pour ce qui est des inégalités géographiques d'espérance de vie, nous sommes cette fois dans un hexagone et donc un cadre beaucoup plus réduit. Il n'en demeure pas moins que l'espérance de vie des hommes à la naissance est inégalement distribuée sur le territoire. On constate effectivement que les zones les plus foncées sont celles où l'espérance de vie est la plus importante, allant jusqu'à 74 à 76 années de vie, comparée à cette moyenne que j'évoquais précédemment de 74,2. Et on retrouve effectivement un certain nombre d'éléments y compris à l'intérieur des pays développés, d'éléments donc d'inégalité, mais qui sont de nature cette fois géographique, qui sont relativement comparables pour les femmes. Nous voici donc arrivés en fait au terme de ces premiers indicateurs qui sont traditionnels de mortalité et de morbidité, qui ne semblent pas a priori documenter ce phénomène de la persistance qui était celui que j'évoquais dans un premier temps et qui, semble-t-il, ressortent de manière peut-être plus claire sur ces autres indicateurs qui s'attachent en fait à documenter les aspects positifs de la santé. Au titre de ceci, on trouve donc des indicateurs comportementaux qui vont montrer l'inégale exposition au risque des individus, des indicateurs dits de fonctionnement qui vont, par exemple, montrer une certaine incapacité ou un handicap ou une dépendance dans la vie quotidienne. Et enfin, des indicateurs synthétiques qui ont été construits par les économistes souvent pour arriver à ajuster en fait l'espérance de vie à la qualité de vie. C'est un domaine qui est en pleine effervescence et dans lequel effectivement de nombreux travaux permettent de prendre en compte cette dimension de la qualité. et qui en fait se traduit soit par les qualises, comme on les appelle, soit comme les dalises, le deuxième indicateur mettant l'emphase sur la dimension incapacité par rapport au premier qui est plus général et qui met l'emphase sur la dimension de qualité. Enfin, nous avons de plus en plus le recours à des échelles de perception de l'état de santé qui permettent en fait de recueillir la perception des individus sur leur propre état de santé, souvent sous forme d'échelle en 5 points, où on demande à l'individu de se prononcer sur son état de santé et on peut par la suite en fait travailler sur ces échelles dans des comparaisons européennes pour effectivement comprendre, au-delà de ce que les indicateurs traditionnels nous donnent, la façon dont les individus perçoivent leur santé, en particulier comment ceci est en relation avec le revenu, bien évidemment. Alors, dans les facteurs comportementaux, on retrouve cette surmortalité masculine qui était évoquée dans les chiffres et qui montre en fait qu'elle est essentiellement liée à une prévalence plus forte de certaines affections comme le sida ou d'accidents, voire d'un usage plus marqué de tabac, d'alcool. Pour ce qui est effectivement de la variation de ce facteur de risque, toujours en fonction du milieu social, on peut évoquer le chiffre tout à fait parlant du pourcentage de chômeurs selon la catégorie socio-professionnelle. Et donc, bien sûr, à âge et sexe comparable, on voit que pour une moyenne de 26,6% en 98 dans la population des plus de 15 ans, pour les ouvriers non qualifiés, ce pourcentage est presque de 32%, alors qu'il n'est que de 21,3% pour les cadres et les professions intellectuelles. Ceci est documenté par l'indicateur construit par le CREDES, qui donc fait un ensemble de recherches sur, dans le domaine de la santé, et qui nous donne ici un indice synthétique du pronostic vital selon le milieu social. Et ceci aussi en fonction de la situation par rapport à l'emploi et aux revenus. Et si on se contente en fait des deux dernières colonnes de droite, on a ce distinguo très marqué entre les revenus inférieurs à 5000 francs, pour lesquels le pronostic vital, c'est-à-dire le risque en soi, est de 12,3, comparé à 8,7. Donc très clairement, un effet du revenu sur le pronostic vital, qui est un indice synthétique permettant de mesurer la présence de risque dans la vie. Alors, toujours sur les indicateurs synthétiques que j'évoquais précédemment, sur ce fameux DALI, à savoir celui qui permet d'ajuster l'espérance de vie en fonction, en fait, de l'incapacité, on constate sur cette représentation graphique que ce que vous avez en violet pâle, à savoir les économies de marché établies, eh bien, ne concentre que 7% de cette incapacité, comparé à toujours d'autres pays comme ceux qui appartiennent à l'Afrique subsaharienne et qui, eux, concentrent 24%. Ceci, pour les femmes, la même chose ou presque s'applique pour les hommes. Sur la perception de l'état de santé, ce que j'évoquais précédemment, à savoir ce recueil d'informations sur la façon dont les individus perçoivent leur état de santé, nous avons toujours, émanant des recherches du CREDES, l'état de santé tel que perçu par les individus selon le milieu social et le revenu mensuel. Et l'on voit pour le coup que les individus donc, qui ont un revenu supérieur à 8000 francs ont une perception tout à fait positive de leur état de santé comparé à celle des individus dont le revenu est inférieur à 3000 francs. Il y aurait donc une relation très nette entre la perception de son état de santé et son niveau de revenu. Nous voici donc arrivés au terme de ce premier ensemble d'indicateurs qui nous permet de repérer des différences entre hommes et femmes dans le temps, des différences géographiques aussi, mais qui sont malgré tout des indicateurs de résultats, c'est-à-dire que produit le système de soins. Et il nous faut maintenant regarder effectivement des inégalités, mais plus proches peut-être du système lui-même, c'est-à-dire des inégalités d'accès aux soins, sachant que là encore, cette situation d'inégalité que l'on a trouvée dans un premier temps sur les indicateurs de résultats s'étend en fait aux inégalités d'accès, alors même que les systèmes de santé sont supposés corriger ces inégalités d'état de santé. C'est donc en soi un paradoxe et il nous faut regarder de manière plus précise quelles sont ces inégalités. On se heurte assez rapidement à la difficulté de la définition et de la mesure de la notion d'accès. Elle varie beaucoup d'un pays à l'autre. Elle varie aussi entre les chercheurs et la façon dont ils utilisent cette notion. Pour notre compte, on distinguera essentiellement soit la possibilité d'utilisation qui va être essentiellement déterminée par la disponibilité de l'offre de soins sur le territoire. Est-elle également répartie? A-t-on en gros les mêmes coûts de déplacement pour les individus? C'est donc une notion qui sera mesurée par des coûts d'accès pour le patient. Et puis, l'utilisation effective. Et celle-ci, elle est déterminée bien sûr par les facteurs d'offre, c'est-à-dire la disponibilité de médecins, d'hôpitaux, de lits d'hôpitaux, mais aussi et surtout par des phénomènes culturels et sociaux qui vont, eux, influencer la demande. Et il va falloir effectivement mesurer, en fait, les consommations effectives à besoin égal. Quelques chiffres ou quelques cartes pour documenter cette répartition dans un premier temps de l'offre de soins selon la région. Et donc on trouve effectivement des inégalités bien documentées là aussi sur l'influence en fait, la forte présence de l'offre plutôt sur la partie sud du territoire, donc les zones les plus foncées. On trouve une répartition, semble-t-il, plus équilibrée sur le plan géographique entre hôpitaux, mais ce sont des régions, donc c'est effectivement un agrégat qui est déjà assez large. Et pour ce qui est de la consommation, c'est-à-dire en fait au-delà de la disponibilité simple de l'offre, la question de la consommation effective, on va trouver là encore sur le plan géographique des inégalités de consommation. Si l'on regarde la consommation annuelle moyenne de soins de médecins et de dentistes par personne protégée pour 98, on voit effectivement que celle-ci va varier. Ceci dit, elle varie moins pour les médecins et les dentistes que pour d'autres. D'autres éléments comme par exemple la consommation de médicaments par personne protégée que ce document peut permettre de regarder, toujours cette concentration sur le sud de la France et sud-ouest, sud-est. Alors pour les inégalités socio-économiques d'accès aux soins, on a parlé de géographie, de répartition géographique effectivement de l'accès, il y a bien sûr des inégalités socio-économiques d'accès aux soins. Et ceci est documenté par le différentiel que l'on trouve de manière assez claire sur le graphique pour ce qui est des séances de spécialistes. Il semblerait effectivement que la consommation de séances de spécialistes soit beaucoup plus marquée selon la catégorie socio-professionnelle de la personne protégée, les cadres supérieurs, les professions intermédiaires ont ici une consommation de séances de spécialistes nettement plus importante que celle des artisans et des commerçants ou des ouvriers non qualifiés qui sont à gauche de ce graphique. De la même façon, on retrouve des inégalités socio-économiques sur la consommation, cette fois, de soins dentaires et de pharmacie. Celle-ci, donc la consommation de soins dentaires, variant de 3,4 à 5,9 selon la catégorie socio-professionnelle, et pour ce qui est de la consommation de pharmacie, de 30,9 à 43,2. Donc très clairement, ceci, on aura l'occasion d'en reparler, étant lié à une couverture plus ou moins importante par l'assurance complémentaire en France de ces soins. Donc, un premier balayage, je dirais, de ces notions d'inégalité à la fois d'état de santé et d'accès, mais pour autant, toutes ne sont pas inéquitables, inacceptables, et il va bien falloir en passer en fait par l'analyse des principes d'équité, donc par la théorie, et en particulier cette théorie de la justice sociale que Marc Florbet vous a évoquée dans une conférence précédente. Il va bien falloir en passer par ce détour indispensable sur les principes d'équité pour pouvoir répondre effectivement à cette question de savoir quelles sont les inégalités que l'on va qualifier d'inéquitables. Ceci dit, il importe aussi de bien différencier la notion d'égalité et d'équité, puisque ce sont des notions qui sont souvent utilisées comme étant synonymes. Elles ne le seront pas pour moi, sinon nous serions dans le pléonasme avec inégalité et inéquitable. C'est donc important de rappeler que l'égalité, c'est une qualité de ce qui est égal, par opposition à l'équité qui est une disposition à faire à chacun par égal, à reconnaître impartialement le droit de chacun. Donc, parmi les théories de la justice sociale que l'on va effectivement analyser et qui sont définies comme l'ensemble des principes qui régissent la définition et la répartition équitable des droits et des devoirs entre les membres de la société, eh bien, il va nous falloir passer à travers ces théories de la justice sociale, connaître la déclinaison des principes éthiques de ces théories de la justice sociale au domaine de la santé qui nous intéresse, pour pouvoir, dans un deuxième temps, répondre à la question de savoir, parmi toutes ces inégalités que nous avons balayées dans un premier temps, quelles sont celles qui sont donc inacceptables et quelles sont celles qui feront l'objet d'une politique effective de réduction des inégalités. Nous verrons donc, dans un premier temps, cette déclinaison, puis, dans un deuxième temps, la façon dont les systèmes de santé contemporains prennent en compte, effectivement, l'équité, de manière explicite ou implicite. Ernst Berger et Van Parys, dans un ouvrage très synthétique, ont défini les quatre points cardinaux des théories de l'économie, de l'éthique économique et sociale, à partir desquels élaborer des principes qui caractérisent des institutions justes. C'est bien ce que nous cherchons à faire lorsque nous réfléchissons à une modification du système de santé pour plus de justice, pour une réduction des inégalités. Donc quatre points cardinaux que nous allons analyser tour à tour de manière assez synthétique. L'utilitarisme, dans un premier temps, qui a marqué, bien sûr, toute la recherche en économie et qui, en fait, peut être résumé par la formule suivante, à savoir, qui est donc la formule de la recherche du plus grand bonheur pour le plus grand nombre, avec trois principes. Le principe du conséquentialisme, simplement l'idée que les institutions vont être jugées sur le résultat et non pas sur la procédure. Le welfarisme ou encore le bien-être-isme, comme on le traduit parfois, qui nous dit tout simplement que ce résultat est apprécié par l'utilité, la satisfaction, le bien-être que chaque individu va retirer en fait de ce résultat. Et puis enfin, l'universalisme, à savoir effectivement qu'aucun ne doit compter pour plus. Et ceci, c'est la formule, je pense, très synthétique de Bentham, qui permet de définir l'universalisme. Donc trois principes et un programme simple, qui est celui de la maximisation de l'utilité ou encore de la satisfaction totale, quelle que soit effectivement, et c'est ce qui est important, sa distribution entre les membres de la société. À savoir que le seul objectif qui est ici recherché, c'est de maximiser l'utilité sans prendre en considération la façon dont cette utilité peut être très inégalement distribuée dans la société. Donc pour autant, l'utilitarisme ne doit pas être taxé d'individualisme. Il est en fait anti-individualisme dans la mesure où, effectivement, systématiquement, l'intérêt collectif va l'emporter sur l'intérêt individuel. On est donc loin d'une doctrine qui serait individualiste. Et par ailleurs, de manière indirecte, on trouve à l'intérieur de cette recherche de la maximisation du plus grand bonheur pour le plus grand nombre, une forme de redistribution, mais qui est ici simplement lié au principe d'efficacité, c'est-à-dire que dès lors qu'on part du principe que le franc supplémentaire que l'on va consacrer, par exemple, dans le domaine de la santé, aux pays en voie de développement, aura un impact en termes de résultats, puisque ce sont les résultats que l'on juge beaucoup plus importants que le franc supplémentaire qui sera consacré à la santé dans un pays développé, on voit bien que l'utilité sera beaucoup plus grande dans les pays en voie de développement. Je prends cet exemple, mais on peut le prendre aussi en France, bien évidemment. Et à partir de là, il apparaît très net qu'une forme de redistribution au titre de l'efficacité, qui est cette recherche de la maximisation des utilités, est implicite dans le programme même défini par les utilitaristes. Mais il n'est pas recherché en soi au titre d'un principe d'équité, il découle simplement de la recherche de l'efficacité. La déclinaison à la santé des principes utilitaristes nous conduit en fait à fonder l'intervention de l'État en santé pour un certain nombre de raisons. Bon, la première, qui est assez évidente, c'est l'inégale répartition, on vient de le voir, de la morbidité, de la mortalité dans la population, le fait que les dépenses sont souvent imprévisibles entre individus et dans le temps, et enfin, le fait que cette consommation est pour la plupart des cas induite par des circonstances non voulues. Les limites très claires ici du principe de responsabilisation sur les consommations apparaissent nettement. Donc, fondement d'une intervention de l'État et, de manière plus précise, intérêt d'une assurance publique obligatoire, dans la mesure où celle-ci permet de résoudre un premier problème tout à fait important que les économistes appellent dans leur jargon la sélection inverse, et qui nous dit tout simplement que dès lors que les individus sont libres de s'assurer ou de ne pas s'assurer, eh bien, il y a de fortes chances que seuls les mauvais risques, c'est-à-dire ceux qui ont une forte probabilité de tomber malade, vont s'assurer, ce qui rendra difficile, bien sûr, la péréquation que l'assurance est amenée naturellement à effectuer entre les mauvais et les bons risques. Donc, une assurance obligatoire résout automatiquement ce problème dit de sélection adverse. Donc, les externalités étant tout simplement l'idée que les individus, dans leur comportement quotidien, ne voient pas tout l'intérêt qu'il peut y avoir à se vacciner, par exemple, puisque ceci aura un effet bénéfique non seulement sur leur propre santé, mais bien au-delà, sur l'ensemble des individus qui composent la société. On appelle ceci une externalité, toujours dans le jargon des économistes, mais c'est là encore une idée très naturelle et très simple, qui est de dire effectivement que sur certaines décisions prises de manière un peu indépendante par l'individu, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une sous-vaccination et qu'il faut donc un relais par l'intermédiaire de l'État. Et dès lors que l'on envisage effectivement une intervention de l'État dans le financement des soins de santé, il faudra bien sûr évaluer le panier de biens et services, et ceci fera l'objet de développements importants, notamment en économie. Alors, le deuxième point cardinal, c'est en fait le libertarisme, à savoir une société juste est une société libre. C'est une alternative à l'utilitarisme dans la mesure où ici la dignité fondamentale de chaque individu réside dans la liberté de choix, qui ne peut être bafouée au nom d'un impératif collectif. On voit là toute la différence avec l'utilitarisme. Le principe de la justice, c'est simplement qu'une institution est juste si elle respecte la liberté, quelles que soient les conséquences. Donc on est sur une justice plutôt procédurale que conséquentialiste. Et la critique, bien évidemment, c'est que sans les moyens indispensables à l'exercice de la liberté, celle-ci peut rester tout à fait formelle. La déclinaison à la santé, en fait, c'est la partie congrue en fait, de l'intervention de l'État, puisque celui-ci est le veilleur de nuit, comme on l'appelle parfois. Il n'a pas en fait, à intervenir dans le financement. Chacun finance selon ses moyens et l'État donc, se limite à faire respecter les droits de propriété. Les soins de santé font partie intégrante finalement du système de récompense et les inégalités d'accès sont le reflet de choix libres. Le marxisme, très rapidement, donc, a pour exigence fondamentale l'égalité et l'accès aux soins en particulier sera considéré comme un droit, en fait, au même titre que le vote. Le principe acquis étant ici que chacun devra recevoir des soins en fonction de ses besoins, indépendamment de sa capacité à payer. Et on verra en fait que tout le courant égalitariste qui suit et qui a été développé notamment par John Rawls va reprendre en synthèse les idéaux de liberté et d'égalité qui ont été développés précédemment. Il définit tout d'abord les biens premiers, qui sont en fait les moyens requis pour se forger une conception d'une bonne vie. Et il distingue dans les biens premiers naturels, la santé et les talents étant dans ce registre, et les biens premiers dits sociaux étant plutôt les libertés fondamentales, l'accès aux diverses positions sociales, les avantages qui découlent par exemple du revenu, et ceci fait l'objet d'une redistribution, éventuellement d'une correction par l'intermédiaire des institutions sociales. Trois principes, donc celui d'une égale liberté, d'une égalité équitable des chances et d'un principe dit de maximine ou encore donc de maximisation de l'effort sur ceux qui ont le moins, c'est-à-dire ceux qui ont le minimum. Tout ceci derrière ce qu'on appelle un voile de l'ignorance, c'est-à-dire une situation dans laquelle, a priori, les principes ont été définis sans savoir au préalable quelle est la situation que l'on occupe dans la société pour laquelle on cherche à définir des institutions qui sont justes. Et l'ordre entre ces trois principes est important. Il y a d'abord l'égale liberté, puis l'égalité équitable des chances que l'on va retrouver par la suite et qui nous dit tout simplement qu'il faut donner à chacun sa chance, mais à talent et compétences égales, enfin, ou en tout cas à biens premiers naturels égaux, à savoir qu'on va chercher à égaliser la possibilité d'accès donc, pour des individus ayant effectivement les mêmes caractéristiques. Alors, la traduction au domaine de la santé de ces principes, c'est très clairement la nécessité d'une assurance de base pour couvrir le risque maladie. Au titre d'une part de ce principe de maximine, on va effectivement reconnaître que certaines inégalités sur les biens premiers sociaux sont justes, à condition effectivement qu'elles soient au bénéfice des membres les moins avantagés de la société. Et puis, on fondera aussi cette assurance de base sur les arguments utilitaristes que je viens de développer, notion de sélection adverse et d'externalité. On a par ailleurs des extensions d'Amirtia Sen, que j'évoquais précédemment, cet économiste prix Nobel, qui nous dit en fait que la justice exige d'aller plus loin, c'est-à-dire que les inégalités sur les biens premiers naturels soient aussi en partie corrigées pour atteindre justement l'égalité de certaines capacités. Comment les systèmes de santé ont-ils intégré l'ensemble de ces principes? Quels sont les principes qui prévalent dans la façon même de décliner en fait les systèmes de santé dans leur architecture, dans leurs composantes principales? Alors, le principe de « à chacun selon ses moyens » a été bien sûr abandonné dans la plupart des pays, je dirais dans tous les pays développés, pour aller vers le principe « à chacun selon ses besoins », ce qui implique une déconnexion des paiements et des prestations pour toute ou partie de la population. Et par ailleurs, dans tous les pays, on trouve un socle minimal d'assistance, ce qui implique concrètement que les dépenses publiques représentent dans tous les pays, y compris les USA, une part très importante des dépenses de santé. On voit que pour les USA, effectivement, cette part est presque de 47%. Trois modèles, le modèle dit libéral, qui est celui des USA, mais aussi le modèle des systèmes nationaux de santé, donc d'après Beveridge, et les systèmes d'assurance sociale obligatoires, d'après Bismarck, et qui, chacun, reflète l'importance attachée aux objectifs de liberté et d'équité que nous avons pris le soin de rappeler précédemment. Donc, juste pour vous convaincre que tous les systèmes, y compris les USA, donc, ont une part de dépenses publiques dans les dépenses totales qui est importante. Et dans le cadre du financement, ce que l'on trouve, c'est en fait un mélange de quatre sources possibles qui sont en général combinées, mais dans des proportions variables, à savoir les financements des systèmes de santé sont pour partie issus d'impôts directs, pour partie issus d'impôts indirects, de primes d'assurance, soit obligatoires, soit volontaires, et enfin de paiements directs, que sont en fait des paiements de la poche des usagers, ce qu'il reste une fois que l'assurance a remboursé sa part. On applique dans le domaine du financement des soins de santé un principe dit d'équité verticale d'Aristote, à savoir que les inégaux doivent être traités inégalement, et ceci nous donne effectivement la base sur laquelle présenter les résultats d'un projet européen important qui a tenté de mesurer de manière comparée en Europe l'impact du financement sur la régressivité, progressivité ou proportionnalité des systèmes. On trouve effectivement que les systèmes qui reposent principalement sur l'assurance privée sont de nature régressive, c'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre d'une relative équité. Les systèmes de type fiscalisé, en particulier bien sûr par l'impôt direct, sont plutôt progressifs, donc les riches payant plus que proportionnellement. Et enfin, les systèmes d'assurance publique obligatoire sont souvent proportionnelle, voire progressive, selon en fait la fixation de la cotisation. Pour ce qui est des règles d'accès, puisque l'on peut distinguer en fait entre ces deux notions, d'abord le financement des soins, mais aussi la façon dont on va permettre aux individus de consommer, ce qui pourra en soi générer des inégalités d'accès, eh bien on trouve dans certains pays, donc les systèmes nationaux de santé, la gratuité, alors que dans d'autres pays, notamment de type, dans les systèmes de type bismarckien, on va conditionner soit sur les ressources, soit sur la pathologie, l'accès à la gratuité. Lorsque cette gratuité n'est pas obtenue, il y a donc un paiement de la poche de l'usager qui va viser souvent à réduire les gaspillages et qui va adopter des modalités tout à fait variables selon les secteurs. On voit par exemple que ces modalités de paiement direct varient en France selon qu'il s'agit du secteur de l'hôpital ou du secteur de l'ambulatoire et bien sûr selon la présence ou non d'une assurance complémentaire. Dans les pays, on trouve aussi des règles d'accès qui vont varier selon qu'on impose ou non une filière, c'est-à-dire le passage par le généraliste pour l'accès à des soins de second recours, en particulier les spécialistes et les soins hospitaliers. Et enfin, on trouve là aussi de grandes disparités entre les pays selon la taille plus ou moins large du panier de biens et services sur lequel porte la responsabilité collective, donc ce que la collectivité a décidé de prendre en charge. Les réformes, nous avons parlé de l'architecture, il est maintenant temps de parler des réformes des systèmes de santé contemporains, puisque les années 80, à partir des années 80, on assiste à cette volonté de maîtrise des dépenses de santé, notamment dans le cadre de la réduction de gaspillage. Mais pour certains pays, notamment les pays de type système nationaux de santé, la présence de files d'attente qui indiquerait en fait une forme de rationnement, les décisions récentes d'augmenter le financement du système de santé anglais sont en fait directement issues de cette préoccupation de files d'attente. On a par ailleurs des propositions libérales qui visent à introduire en fait le marché dans le secteur de la santé, je l'ai évoqué en introduction, qui voudraient renforcer la responsabilité individuelle. Tout ceci est bien difficile à mettre en pratique, pour autant, il est important de savoir en fait si le marché, l'introduction du marché comme elle a pu être opérée dans certains pays, conduit à renforcer ou pas les inégalités. Très rapidement donc, et de manière très parlante, un graphique qui souligne la position plutôt dans la fourchette haute de la France en matière de croissance des dépenses de santé, puisqu'il s'agit des dépenses totales de santé par habitant, et la France est en blanc sur le graphique. Et puis, une représentation de ces objectifs importants que les trois grands types... Ah, je suis désolée. Bizarre. Alors, voilà, pardon. Donc, une représentation un petit peu schématique des différents objectifs que les systèmes de santé tentent de poursuivre, sachant que chacun définit un contrat social qui, effectivement, conduit à un équilibre qui va porter plus particulièrement sur l'un ou l'autre de ces objectifs. Alors, on trouve, par exemple, pour les États-Unis, une importance très grande attachée à la liberté et aussi à la volonté de poursuivre l'objectif d'efficacité, que l'on définira ici comme la minimisation du coût à qualité donnée. Pour le Royaume-Uni, on sait que l'équité est très importante, quand bien même les résultats récents indiqueraient la persistance importante d'inégalités. Et là encore, la volonté de minimiser le coût. La France se trouvant plutôt dans une situation où les deux objectifs d'équité et de liberté sont peut-être plus importants que celles d'efficacité. Les réformes récentes tendent finalement à rééquilibrer chacun de ces trois grands systèmes de santé sur le pôle qui jusque-là, semble-t-il, était un peu délaissé. Si l'on prend le cas du Royaume-Uni, on voit effectivement que les réformes des années 90 ont eu pour objectif de rééquilibrer sur la liberté tant pour les usagers que pour les producteurs. Pour les États-Unis, la réforme avortée de Clinton avait pour objectif de rééquilibrer sur ce troisième pôle qu'est l'équité, jusque-là négligé. Et la France, des 10 dernières années, s'est préoccupée essentiellement de maîtrise des dépenses de santé. Donc, du Japon. Oui, je dois dire que le travail que je vous présente là est un travail qui est sur les pays européens et sur enfin le modèle, les trois modèles hein, que sont d'une part le modèle libéral, le modèle bismarckien avec la France et l'Allemagne et le modèle du Royaume-Uni. Je pense qu'on pourrait réfléchir à l'application de ce graphique en fait, qui est dynamique, c'est-à-dire qui nous dit en quoi il faut rééquilibrer potentiellement sur l'un des objectifs qui a pu être délaissé dans un premier temps. Je pense qu'on pourrait faire ce travail pour chaque pays, mais je ne peux pas vous dire pour le Japon très exactement quel est l'équilibre auquel il est parvenu. Alors, pour aborder la troisième partie, c'est-à-dire comment définir une politique effective de réduction des inégalités, il nous faut répondre tout d'abord à deux interrogations importantes. La première, c'est de savoir quel rôle nous allons conférer au système de soins dans la réduction de ces inégalités. Et puis, quels sont finalement les principes que l'on va définir pour une politique de réduction des inégalités. Alors, deux exemples pour la France de modifications du système de santé, de réformes de fait importantes qui ont eu lieu et qui modifient de manière conséquente le fonctionnement du système de santé. C'est d'une part la CMU, la loi sur la couverture maladie universelle, qui a permis en fait d'étendre les garanties du régime de base, mais aussi les garanties du régime de couverture complémentaire à 4,5 millions de personnes. C'est en fait très clairement une loi qui permet de réduire les inégalités d'accès aux soins de santé. Et par ailleurs, la réforme du financement par la contribution sociale généralisée qui modifie de manière conséquente la base sur laquelle se fonde le financement du système de santé, qui dans un premier temps était essentiellement assis sur les cotisations sociales, donc les revenus du travail, et qui aujourd'hui en fait inclut une base beaucoup plus large et pourra en fait progressivement permettre de donner plus de progressivité dans le système si tel est le souhait des décideurs. Donc deux exemples en fait de réformes importantes qui vont modifier à l'intérieur du système de santé les possibilités d'accès aux soins, mais les travaux qui ont été menés par l'Institut canadien de recherche avancée, donc l'ICRA, ont eu pour effet de relativiser la contribution du système de soins à l'amélioration de l'état de santé et à placer finalement les inégalités de revenus, donc de manière beaucoup plus large, et donc la contribution aussi des facteurs de risque au centre de l'analyse. C'est une forme de déplacement de ce qui était dans un premier temps une focalisation sur la contribution que le système de soins lui-même pouvait apporter vers une réflexion beaucoup plus large sur tout un ensemble d'éléments, bien sûr le revenu, mais aussi les facteurs de risque. Et à titre d'exemple, on notait en 97 que 52% des décès auraient pu être évités et la contribution en fait, qu'aurait pu avoir une intervention par le système de soins lui-même n'aurait contribué qu'à concurrence de 16,2% de cette réduction de 52% des décès, comparée en fait, à l'impact qu'aurait une action sur les facteurs de risque individuels, donc 35,7%. Quelle voie pour une réduction effective des inégalités ? On peut dégager un certain nombre de principes communs. Tout d'abord, au niveau global, la nécessité d'une action correctrice qui sera menée tant sur la distribution des revenus, ce sont les travaux de cet institut canadien que j'évoquais rapidement à l'instant qui le suggère, que donc dans le secteur de la santé, ce qui est plus traditionnel. Aussi, bien sûr, toujours en fonction des enseignements de ces travaux de recherche sur les facteurs déterminant les inégalités, en général, et les inégalités de santé en particulier, une communication assez efficace sur le risque au niveau individuel. À l'intérieur du système de santé, on peut mener une réflexion, bien sûr, sur la notion d'égalité équitable des chances, ce que j'évoquais précédemment dans la lignée des travaux de Rawls et de Sen, mais aussi de manière plus pragmatique, une coordination des interventions médicales et sociales. Je crois que dans ce secteur, les inégalités socio-économiques nous montrent que la coordination entre le médical et le social, qui est mieux réussie dans certains pays comme les Pays-Bas, est tout à fait importante, en particulier en France. Le rééquilibrage qu'appellent depuis longtemps les spécialistes de santé publique sur le préventif plutôt que sur le curatif. Et enfin, l'importance accrue de l'évaluation de l'efficacité des soins. On va effectivement trouver, y compris en France, puisque nous terminons sur le cas de la France, l'importance de la réduction des gaspillages, puisque dans une situation de contrainte financière accrue, un gaspillage est quelque part la plus grande des injustices. Et ceci passe, bien sûr, par l'évaluation de l'efficacité du système de soins. Le deuxième élément peut-être que l'on peut offrir pour réfléchir à cette voie d'une politique effective de réduction des inégalités, c'est l'urgence d'une réflexion qui permettrait justement de mieux préciser les contours du contrat social. On a évoqué rapidement par ce petit graphique la notion de contrat social qui est cet équilibre entre ces trois principes d'efficacité, de liberté et d'équité. Eh bien, il importe aujourd'hui, en France en particulier, de réfléchir à ces contours du contrat social et surtout à son devenir, notamment dans l'éventualité de réformes qui viseraient à introduire plus de marchés. Enfin, la définition plus opérationnelle des inégalités autour de cette notion d'égalité équitable, donc des chances. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Ma question est double. Première question, pourquoi faut-il admettre que la contrainte financière est accrue alors que par ailleurs la production de biens est plus large? Deuxième point, qui est un petit peu dans le même style, Pourquoi faut-il introduire la notion de marché qui est par essence inéquitable alors qu'on cherche à obtenir de l'équité dans la santé ?
Oui, je réponds tout de suite pour clarifier si ce n'était pas le cas. La question de l'introduction du marché, je suis bien d'accord avec vous que l'introduction du marché ne permettra pas d'atteindre l'objectif de réduction des inégalités. C'est simplement que c'est une proposition qui est récurrente. Si l'on prend par exemple les pays de l'ex-Russie, par exemple tous les pays donc de l'Est, on voit en fait la grande tentation qu'ils ont à introduire des mécanismes de marché. Parce que, notamment le paiement à l'acte, par exemple, pour les médecins, parce que c'est un moyen, en fait, d'amener dans le secteur de la santé un financement plus important que celui qui découlerait, en fait, d'un financement public sous forme d'imposition et qui serait, certainement un relais important du financement des soins de santé. Donc, les propositions sont nombreuses. Et il me semble qu'il vaut mieux prévenir que guérir, pour le coup, c'est-à-dire réfléchir de manière très précise aux implications en termes d'équité que l'introduction du marché aurait. Et c'est plutôt dans ce sens-là que j'ai parlé du marché, c'est-à-dire de l'importance d'anticiper sur les effets éventuels de l'introduction du marché sur l'équité, et donc de la mesure potentielle de ces effets. Pour ce qui est de la première question, la question donc, de la contrainte financière accrue alors que la production de biens est plus large, la question est en fait de savoir quelle proportion de la richesse nationale doit aller à la santé par rapport à d'autres besoins comme celui de l'éducation. C'est plutôt la contrainte, elle existera toujours, il y aura toujours en fait par rapport à des besoins qui sont illimités, une contrainte financière qui sera d'autant plus perceptible qu'on s'inscrit dans les objectifs européens de réduction, en tout cas de maîtrise des dépenses publiques. Et on est toujours dans une logique en fait de coût d'opportunité entre en fait ce que l'on pourra mettre dans la santé ou dans l'éducation, par exemple. Donc la notion de contrainte, elle est liée au fait que les besoins sont illimités et les moyens sont toujours limités par rapport à ces besoins.
Ne pensez-vous pas que, au-delà des avantages que vous avez décrits, les systèmes obligatoires et généralisés de santé interdisent, contrairement aux systèmes privés, aux organismes assureurs de choisir les bons risques contre les mauvais risques, comme ceci se pratique aux États-Unis.
J'avoue que je ne comprends pas la question. C'est-à-dire qu'en fait...
Actuellement, les compagnies d'assurance médicale aux États-Unis demandent un profil médical pour savoir s'ils vont assurer ou pas les gens qui veulent être assurés en fonction de ce profil médical. Elles font donc un choix sur les candidats à l'assurance, contrairement au système généralisé et obligatoire qui assure tout le monde.
Bien sûr, c'est tout à fait. Alors, j'ai parlé de sélection adverse, c'est-à-dire le fait que l'obligation d'assurance résout ce problème de la sélection adverse que j'ai défini tout à l'heure. Mais il est vrai que dès lors que l'assurance est obligatoire, la question de la sélection par l'assureur des bons risques ne se pose plus non plus. Donc, il y a un double avantage à l'obligation d'assurance, absolument. J'avoue que je n'avais pas parlé d'écrémage du risque, qui est en fait le terme plus technique et qui est distinct de la notion de sélection adverse, mais les deux notions sont tout à fait importantes. C'est en fait la question de la sélection, soit par le bas, soit par le haut, qui ne se fait plus dès lors que l'assurance est obligatoire, bien sûr. C'est un autre élément majeur d'équité, tout à fait.
Vous m'avez indiqué que dans les limitations aux dépenses de santé, il y avait des règles européennes. Je suis un peu étonnée, alors que l'Europe apparaît dans le monde comme le domaine le plus développé, ou à peu près, pourquoi faut-il, dans ce cas-là, faire une pression sur les dépenses de santé, alors qu'en la réduisant au contraire, on porterait l'Europe au plus haut point sur la santé, de la même manière que sur la productivité?
Alors, je pense que ce qui est très important dans les travaux que j'ai essayé de présenter, c'est de rappeler que le système de santé n'est pas le seul à produire et améliorer l'état de santé, et que, en particulier sur la politique de réduction des inégalités de santé, il se peut très bien, c'est tout à fait clair pour les pays en voie de développement, qu'une politique d'éducation soit beaucoup plus efficace qu'une politique de soins de santé. Donc je crois que l'idée, en fait, selon laquelle l'Europe aurait tendance à réduire les dépenses de santé serait néfaste à l'état de santé de la population, est à nuancer de manière très importante au double titre suivant. D'une part, l'Europe ne tente pas de réduire les dépenses de santé. Je crois que de manière beaucoup plus générale, il y a une préoccupation sur le taux des prélèvements obligatoires et la part des dépenses publiques dans les systèmes. Et bien sûr, le système de santé en fait partie au même titre que l'éducation. Mais je pense que par ailleurs, il faut se rappeler que le système de santé n'est pas le seul à contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population, qu'il peut y avoir d'autres moyens. Et ce n'est pas parce qu'on réduit les dépenses de santé que l'on va automatiquement réduire l'état de santé de la population. C'est un peu les travaux de l'Institut canadien de recherche avancée qui le montraient dans mon exposé rapide sur ce sujet, je dois le dire.
Oui, vous avez insisté sur la charge que représente les systèmes de santé, en tout cas le coût de la santé, sur l'économie du pays. Alors, il y a une autre charge qui est de financer la vieillesse, à part la santé. Et ces deux charges sont liées dans la mesure où plus les gens vieillissent, plus ils sont consommateurs de santé. Alors, il y a un problème de financement de l'assurance maladie, il y en a un autre sur les retraites. Ces deux problèmes pèsent sur le contribuable ou sur l'actif, et à un moment, on risque que ça ne devienne, que ça devienne intenable. Et donc que les gouvernements soient conduits à des choix drastiques et inévitablement déplaisants, quelles que soient les options. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va arriver?
Oui, alors je serais bien loin de pouvoir vous dire ce qui va arriver. Je pense que ce qu'il faut, c'est effectivement essayer de prévoir, c'est-à-dire, par exemple, c'est ce que j'évoquais sur les recommandations en termes d'introduction du marché pour assouplir la contrainte financière qui est implicite dans les charges que vous évoquez, hein, le système de santé, la vieillesse. Bon, le recours au marché a des implications en termes d'équité qu'il faut documenter, qu'il faut connaître, qu'il faut mesurer, puisque bien évidemment ce ne sera pas neutre en termes de revenus que de recourir au marché, que ce soit pour la santé ou que ce soit pour la vieillesse, donc la retraite. Ceci dit, je crois qu'il y a des caractéristiques fondamentales que j'ai en tout cas tenté de rappeler pour ce qui est de la santé, qui font que la part des dépenses publiques restera conséquente, la part de l'État restera très conséquente, et que les réformes ne seront, semble-t-il, qu'à la marge. Je pense qu'on parle beaucoup d'introduction de marché. Sur les 15 dernières années, il y a quand même très très peu de changements importants en la matière, en tout cas pas de virage à 180 degrés sur ce sujet-là. Donc je ne pense pas que les caractéristiques fondamentales du contrat social, en tout cas pour la France, soient amenées à changer. Ce que je ne vous ai pas dit, mais que vous savez déjà, c'est qu'en fait le système de santé français a été reconnu comme le meilleur au monde par ce même rapport de l'OMS que j'évoquais précédemment. Bon, ceci dit, il connaît, comme tous les autres, de grandes difficultés, y compris de financement. La CSG améliore certainement l'équilibre financier progressivement, mais c'est un système qui est éminemment perfectible. Donc, quand bien même l'OMS l'a jugé extrêmement positivement, je pense que c'est un système qui demande à être évalué, en particulier, c'est ce que j'évoquais, de façon à utiliser de manière plus efficace les ressources dont on dispose, et puis essayer de mesurer les effets que pourraient avoir effectivement des réformes, donc de simuler l'impact de réformes éventuelles avant de les faire, si possible.
Bonsoir. Je souhaiterais poser trois questions. Tout d'abord, quelle est l'influence du chômage sur le budget de la sécurité sociale? Ensuite, quel serait l'impact d'une augmentation du SMIC sur le budget de la sécurité sociale? Enfin, vous avez parlé de maîtrise des dépenses de santé. Quels sont les moyens actuels de cette maîtrise et qu'en pensez-vous?
Je n'ai pas compris la dernière question, excusez-moi.
Alors, la troisième, c'est la maîtrise des dépenses de santé. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment se pratique-t-elle? Et qu'en pensez-vous? Merci.
D'accord. Alors, je serai certainement beaucoup plus complétante sur la troisième que sur les deux premières. Bon, l'influence d'une part du chômage et d'autre part de l'augmentation du SMIC, bon, ce sont les canaux par lesquels effectivement ces influences se répercutent sur le budget de la sécurité sociale sont complexes. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir cette révolution silencieuse qui est celle d'un financement progressif par la CSG, dont la base est plus large et qui permettra certainement de se soustraire aux difficultés que l'on a rencontrées précédemment, du fait que la base était essentiellement celle des revenus du travail par les cotisations sociales. Et le passage à la CSG, qui élargit cette base, devrait effectivement permettre de réduire les déficits du budget de la sécurité sociale. Pour ce qui est de la troisième question sur la maîtrise des dépenses, ce que j'en pense, j'ai eu l'occasion effectivement de plancher sur ce sujet à la fois aux finances il y a une dizaine d'années et plutôt récemment dans le cadre de la mission de concertation pour la rénovation des soins de ville. Et je crois qu'elle est inéluctable. C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire au deuxième Grenelle de la santé, donc le 12 juillet l'année dernière. Elle est inéluctable dans le sens où on ne peut pas aujourd'hui, y compris eu égard aux inégalités que l'on cherche à réduire, se permettre en fait des gaspillages dans un système qui déjà n'a pas les moyens d'assurer cet accès égal, ou en tout cas ces égales opportunités que l'on a pu évoquer précédemment. Donc cette maîtrise, elle est indispensable, ne serait-ce que pour réduire les gaspillages qui existent, quand bien même le système français est reconnu comme le meilleur. Ces gaspillages existent. Ceci dit, au-delà de la réduction des gaspillages, se pose effectivement la question de savoir si l'on doit aller plus loin que de réduire les gaspillages et éventuellement envisager de définir des priorités par rapport à des programmes différents, sachant effectivement que les ressources sont limitées. Et donc cette maîtrise, elle me paraît inéluctable. Elle a emprunté des chemins détournés. On a parlé de maîtrise médicalisée versus maîtrise comptable. L'idée étant simplement que les médecins souhaitaient, l'ensemble des professions médicales souhaitaient une maîtrise qui puisse être articulée de manière assez légitime sur des objectifs de santé publique, ce qui est très difficile à faire, ce qui est tout à fait fondé, mais très difficile à faire, et ne souhaitaient pas qu'une espèce de chape soit mise, y compris de manière indicative, sur les dépenses à venir du système de santé, puisqu'ils voulaient en fait que ces dépenses à venir soient définies en fonction des besoins de la population. Donc il y a une difficulté réelle à harmoniser une vision, je dirais, macroéconomique dans laquelle on cherche effectivement à définir la taille du secteur de la santé dans les années à venir. Est-ce que c'est 8%, 9%, 10% du PIB? Et puis à faire le lien avec les besoins sur le terrain de la population et de la façon dont on répond à ces besoins. Et tout l'enjeu des années à venir va être de rapprocher ces deux dimensions, c'est-à-dire ce travail de mesure des besoins, d'articulation, y compris sur le terrain de programme, et puis la façon dont on pourra effectivement définir les moyens qui répondront à ces besoins, mais en définissant nécessairement des priorités. Donc je crois qu'elle est inéluctable, mais elle est douloureuse, si je peux résumer.
Lise Rochex, merci beaucoup.